Deux jours plus tard, l'excellent docteur me raconta franchement ce qui m'était arrivé. Le gardien m'avait entendu crier très fort dans ma cellule et il avait cru d'abord que quelqu'un s'y était introduit avec qui je m'étais querellé. Mais à peine avait-il paru à la porte que je m'étais précipité sur lui en poussant des cris sauvages. « Allons, joue, gredin, poltron !» J'avais essayé de le saisir à la gorge avec tant de violence qu'il avait dû appeler au secours. Tandis qu'on m'emmenait chez le médecin, j'avais réussi à me dégager et, pris d'une rage frénétique, je m'étais jeté contre la fenêtre du couloir en brisant la vitre et en me faisant une profonde blessure à la main. Vous en voyez encore ici la cicatrice. J'avais passé les premières nuits à l'hôpital avec une sorte de fièvre cérébrale, mais j'avais maintenant recouvré le complet usage de mes sens. « Bien entendu, je ne dirai pas à ces messieurs que vous allez mieux, » ajouta-t-il doucement. « Ils seraient capables de vous y renvoyer. Remettez-vous-en à moi, je ferai de mon mieux pour vous tirer d'affaire. » J'ignore quel rapport ce précieux ami put bien faire à mes bourreaux. Le fait est qu'il obtint ce qu'il voulait, ma libération. Peut-être me fit-il passer pour un irresponsable. Peut-être aussi ma personne ne présentait-elle déjà plus aucun intérêt pour la Gestapo, car Hitler venait d'occuper la Bohème, et le cas de l'Autriche était liquidé à ses yeux. Je dus seulement m'engager par écrit à quitter ma patrie dans les 15 jours, et ces 15 jours furent si remplis par les 1000 formalités que doit accomplir aujourd'hui un ci-devant citoyen du monde pour un voyage à l'étranger, papier militaire, papier de police, attestation fiscale, passeport, visa, certificat médical, qu'il ne me resta guère de temps pour songer au passé. Il semble d'ailleurs qu'il y ait dans notre cerveau de mystérieuses forces régulatrices qui écartent spontanément ce qui pourrait nuire à l'âme ou la menacer, car chaque fois que j'essayais de penser à mon temps de captivité, ma mémoire s'obscurcissait. Ce ne fut que de nombreuses semaines plus tard, lorsque je me trouvais sur ce paquebot, que j'eus enfin le courage de repasser ces événements dans mon esprit. Vous comprenez maintenant pourquoi je me suis comporté de façon si incongrue et sans doute incompréhensible envers vos amis. Je flânais par le plus grand des hasards dans le fumoir quand je vis ces messieurs assis devant un échiquier. L'étonnement et l'effroi me clouèrent sur place malgré moi, car j'avais complètement oublié qu'on peut jouer aux échecs devant un véritable échiquier avec des pièces palpables. J'avais oublié que c'est un jeu où deux personnes tout à fait différentes s'installent en chair et en os l'une en face de l'autre. Et, en vérité, il me fallut quelques minutes pour me rappeler que ces joueurs que je voyais là jouaient au même jeu que moi dans ma cellule pendant des mois, quand je m'acharnais désespérément contre moi-même. Les chiffres dont je m'étais accommodé à cette époque d'exercice farouche n'étaient donc que les symboles de ces pièces d'ivoire. La surprise que j'éprouvais à constater que le mouvement des pièces sur l'échiquier correspondait à celui de mes pions imaginaires ressemblait sans doute à celle de l'astronome qui a déterminé sur le papier l'existence d'une planète grâce à de savants calculs et qui aperçoit soudain cette planète dans le ciel sous la forme d'une substantielle et brillante étoile. Comme hypnotisé, je fixais l'échiquier où je contemplais mes diagrammes concrétisés par les figurines sculptées d'un cavalier, d'une tour, d'un roi, d'une reine et de pions véritables. Pour bien saisir les positions respectives des adversaires, je fus obligé de transposer le monde abstrait de mes chiffres dans celui des pièces qu'on maniait sous mes yeux. Peu à peu, la curiosité me vint d'assister à une partie réelle, disputée par deux adversaires. Oubliant leur toute politesse, j'intervins maladroitement dans votre jeu. Mais l'erreur qu'allait commettre votre ami m'atteignit comme un coup au cœur. D'un geste instinctif, sans réfléchir, je le retins comme on retient un enfant qui se penche par-dessus une balustrade. Plus tard seulement, je me rendis compte de la grossière inconvenance de mon intrusion. Je me hâtai de rassurer M. B. en lui disant que nous nous félicitions de ce hasard qui nous avait permis de faire sa connaissance. Et j'ajoutais que pour ma part, j'étais doublement impatient d'assister au tournoi improvisé du lendemain, après avoir écouté son récit. M. B. eut un mouvement inquiet. « Non, vraiment, ne vous faites pas d'illusions. Il ne s'agira pour moi que de me mettre à l'épreuve. Oui, je voudrais savoir si je suis capable de jouer une partie d'échecs ordinaire sur un vrai échiquier, avec de vraies pièces, contre un adversaire réel, car il me reste toujours un doute à ce sujet. Ces 100, peut-être ces 1000 parties que j'ai jouées, étaient-elles réglementaires? Ou n'était-ce qu'un jeu de rêve, comme on en fait quand on a la fièvre, un de ces rêves fantastiques, où l'on saute souvent des échelons indispensables à la réalité? car vous ne prétendez pas sérieusement, j'espère, que je me mesure avec un champion du monde et que je le mette hors de combat. La seule chose qui m'intrigue et qui m'intéresse, c'est de savoir une fois pour toutes si je jouais vraiment aux échecs dans ma cellule ou si j'étais déjà fou. En un mot, si j'étais en deçà ou au-delà de la zone dangereuse. C'est le but unique de cette partie, à mes yeux. Au même moment, de l'autre extrémité du navire, le gong nous appela à dîner. Notre entretien avait sans doute duré presque 2 heures. J'ai beaucoup abrégé ici le récit circonstancié que me fit M. B. Je le remerciai chaleureusement et pris congé. Mais je n'avais pas quitté le pont, qu'il me courait après et ajoutait avec tant de nervosité qu'il en bégayait. « Encore un mot, je ne voudrais pas ensuite paraître impoli une seconde fois. Voulez-vous bien prévenir ces messieurs que je ne jouerai qu'une seule partie? Ce sera le point final à une vieille histoire, c'est tout. Une conclusion définitive, pas un recommencement. Je ne désire pas être repris par cette passion fiévreuse, par cette rage de jouer à laquelle je ne pensais qu'en tremblant. Et d'ailleurs, le médecin alors m'avait averti, expressément averti. Un homme qui a été atteint d'une manie peut retomber malade, même s'il est complètement guéri. Il vaut mieux ne plus s'approcher d'un échiquier quand on a été intoxiqué comme je le fus. Donc, vous comprenez, je jouerai cette unique partie pour être fixé là-dessus et ce sera tout. » Le lendemain, à 3 heures très précises, nous étions, comme prévu, réunis au fumoir. 2 officiers du bord, amateurs de ce roi des jeux, s'étaient joints à nous, ayant obtenu une permission spéciale pour assister au tournoi. Chentovic ne se fit pas attendre comme la veille cette fois. Et après la répartition des couleurs, une partie mémorable s'engagea, qui mettait aux prises mon très obscur compatriote avec l'illustre champion. Je regrette qu'elle se soit déroulée seulement devant d'aussi incompétents spectateurs que nous, et qu'elle soit perdue pour les annales du jeu d'échecs, comme le sont pour l'histoire de la musique les improvisations de Beethoven au piano. Nous essayâmes, il est vrai, de reconstituer tous ensemble la partie de mémoire le lendemain après-midi, mais sans y réussir. Les joueurs nous avaient sans doute intéressés plus que le jeu, dont nous ne retrouvions plus les péripéties. En effet, le contraste intellectuel que formaient les deux partenaires s'exprima de plus en plus physiquement dans leurs attitudes respectives au cours de la partie. Raide et immobile comme une souche, Chentovic, très bien rodé, ne quittait pas l'échiquier des yeux. Réfléchir était pour lui une sorte d'effort physique qui demandait une concentration extrême de tout son corps. Monsieur B, au contraire, restait parfaitement dégagé et libre dans ses mouvements. Véritable dilettante, au plus beau sens du mot, il ne voyait dans le jeu que le plaisir qu'il lui causait, nous donnait avec désinvolture des explications entre les coups, allumait une cigarette d'une main légère et ne regardait l'échiquier qu'une minute avant que ce soit à lui de jouer. Il semblait toujours avoir prévu les intentions de l'adversaire. Au début, pour les ouvertures obligées, tout alla assez vite. Ce n'est qu'au 7e ou 8e coup que la bataille parut se dessiner selon un plan précis. Chentovic réfléchissait plus longuement. Nous comprîmes à ce signe que la véritable lutte pour la suprématie était engagée. Mais je dois à la vérité dire que, pour nous autres novices, l'évolution progressive de la situation, comme dans Tourelle Tournoi, était plutôt décevante. Car plus les pièces composées sur l'échiquier leurs étranges arabesques, moins nous en pénétrions le sens caché. Nous ne saisissions ni les intentions des deux adversaires, ni dans quel camp se trouvait l'avantage. Nous voyions seulement qu'ils déplaçaient leurs pièces telles des leviers, ou comme des généraux font marcher leurs troupes pour tâcher de faire une brèche dans les lignes ennemies. Mais nous ne pouvions comprendre les buts stratégiques de ces mouvements, car des joueurs aussi avertis combinent leur affaire plusieurs coups d'avance. Et à notre ignorance s'ajoutait peu à peu une fatigue qui venait surtout des interminables minutes de réflexion nécessaires à Chentovic. Cette lenteur irritait visiblement notre ami. Je remarquai, avec inquiétude, qu'il s'agitait de plus en plus sur son siège au fur et à mesure que la partie durait. Il allumait nerveusement cigarette sur cigarette ou prenait une note d'une main rapide. Puis il se fit servir une bouteille d'eau minérale et avala précipitamment un verre après l'autre. Il était évident qu'il calculait ses coups 100 fois plus vite que Chentovic. Quand ce dernier se décidait enfin, après des réflexions infinies, à pousser une pièce de sa lourde main, notre ami souriait simplement de l'air de quelqu'un qui a prévu la manœuvre depuis longtemps, et il ripostait aussitôt. Son cerveau travaillait si vite qu'il avait sans doute déjà calculé toutes les possibilités de son adversaire. Aussi, plus Tchentovik tardait-il à se décider, plus l'impatience de l'autre augmentait-elle, et pendant qu'il attendait ainsi, ses lèvres prenaient une expression de contrariété presque hostile. Mais Tchentovik ne s'émouvait pas pour si peu. À mesure que les pièces se faisaient plus rares sur l'échiquier, ses réflexions s'allongeaient, mornes et muettes. Au 42e coup, la partie avait duré 2 bonnes heures 3/4, et nous ne la suivions plus que d'un regard hébété de fatigue. Un des officiers du bord était parti, l'autre lisait un livre et ne jetait un coup d'œil sur l'échiquier qu'au moment où l'un des partenaires avait joué. Mais soudain, c'était au tour de Tchentovik, se produisit quelque chose d'imprévu. Le champion avait le doigt sur le cavalier pour le faire avancer, et M. B., en le voyant, se ramassa sur lui-même comme un chat qui va sauter. Il se mit à trembler de tout son corps, poussa sa dame d'un geste sûr et s'écria triomphant « Ça y est, c'est réglé !» Il se rejeta en arrière, se croisa les bras sur la poitrine et jeta à Tchentovik un regard de défi où fulgurait soudain une lueur brûlante. Nous nous penchâmes tous sans le vouloir vers l'échiquier pour comprendre cette manœuvre si victorieusement annoncée. Au premier abord, on ne voyait rien de menaçant. L'exclamation de notre ami devait donc se rapporter à un développement ultérieur de la situation que nous autres, dilettantes à courte vue, ne savions pas prévoir. Tchentovik seul n'avait pas bronché à l'annonce provocatrice de son partenaire. Il était resté aussi imperturbable que s'il n'avait pas entendu cet offensant « Ça y est !» Il ne se passa rien. La montre posée sur la table pour mesurer l'intervalle entre deux coups faisait entendre son tic-tac dans le silence général. 3 minutes s'écoulèrent, puis 7, puis 8. Tchentovik ne bougeait toujours pas, mais il me sembla que l'effort qu'il s'imposait élargissait encore ses narines épaisses. L'attente devenait intolérable pour notre ami M. B., comme pour nous. Il se leva d'un bond et se mit à marcher dans le fumoir de long en large, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Tout le monde le regardait un peu surpris, et moi j'étais plein d'inquiétude car je venais de m'apercevoir que malgré son agacement, il arpentait toujours le même espace. On eût dit qu'une barrière invisible arrêtait dans le vide au milieu de la pièce et l'obligeait à revenir sur ses pas. Je compris, en frissonnant, qu'il refaisait sans le vouloir le même nombre de pas que jadis dans sa cellule. Oui, c'était exactement ainsi qu'il devait s'être promené des mois durant, comme un fauve en cage. Comme cela, 1000 fois de suite, il avait dû aller venir, les mains crispées et les épaules rentrées, tandis que s'allumait dans son regard fixe et fiévreux la rouge lueur de la folie. En ce moment, il avait apparemment encore toute sa présence d'esprit, car il se tournait de temps en temps avec impatience du côté de la table pour voir si Tchentovik s'était décidé. Mais 9, 10 minutes s'écoulèrent encore. Ce qui se passa ensuite, aucun de nous ne s'y attendait. Tchentovik leva lentement sa lourde main. Chacun regarda anxieusement ce qu'il allait faire, mais Tchentovik ne joua pas. Du revers de la main, il repoussa les pièces de l'échiquier. Nous ne comprîmes pas tout de suite qu'il abandonnait la partie, qu'il capitulait avant que tout le monde vît qu'il était battu. L'invraisemblable s'était produit. Un champion du monde, le vainqueur d'innombrables tournois, venait de baisser pavillon devant un inconnu, devant un homme qui n'avait pas touché à un échiquier depuis 20 ou 25 ans. Notre ami, cet anonyme, avait battu le plus fort joueur du monde entier dans un tournoi public. Sans nous en apercevoir, dans notre émotion, nous étions tous levés. Chacun de nous avait le sentiment de devoir faire ou dire quelque chose pour donner libre cours à son joyeux effroi. Le seul qui ne bougea pas très calme fut Tchentovik. Au bout d'un assez long moment, il leva la tête et regarda notre ami d'un œil de pierre. « Encore une partie ?» demanda-t-il. « Mais certainement, répondit M. B., avec un enthousiasme qui me fit une fâcheuse impression. Et avant même que j'aie pu lui rappeler son intention de s'en tenir à une seule partie, il se rassit. Avec une hâte fiévreuse, il remit les pieds sur l'échiquier, et ses doigts tremblaient tellement que par deux fois un pion s'en échappa et roula sur le plancher. Le malaise que me causait son excitation forcée devint de l'angoisse. Indéniablement, cet homme calme et paisible s'était changé en exalté. Le tic faisait tressaillir toujours plus souvent le coin de sa bouche et tout son corps tremblait, comme secoué par une fièvre subite. « Cela suffit, lui soufflai-je doucement. Ne jouez pas maintenant. C'est assez pour aujourd'hui. C'est trop éprouvant pour vous. »« Éprouvant ?» Il riait fort d'un air méchant. « J'aurais pu faire 17 parties si nous ne traînions pas tant. Ce qui me fatigue à ce rythme, c'est de rester éveillé. Allons, c'est à vous de commencer. » Ces derniers mots prononcés sur un ton violent, presque grossier, il les avait adressés à Tchentovik, qui jeta sur lui un regard calme et mesuré, mais dur, comme un poing fermé. Entre les deux joueurs était née soudain une dangereuse tension, une haine passionnée. Ce n'étaient plus deux partenaires qui voulaient prouver leur force en s'amusant, c'étaient deux ennemis qui avaient juré de s'anéantir réciproquement. Tchentovik tarda longuement avant de jouer son premier coup, et j'eus nettement le sentiment qu'il le faisait exprès. Il devait avoir compris que sa lenteur fatiguée irritait l'autre, et il s'en servait en tacticien bien entraîné. Au bout de 4 grandes minutes, donc, il ouvrit le jeu de la manière la plus simple et la plus ordinaire, en faisant avancer de 2 cases le pion qui couvre le roi. Monsieur Berry posta aussitôt avec le même pion, puis Tchentovik refit une pause démesurée, à peine supportable. Nous attendions le cœur battant comme on attend le tonnerre après un éclair éblouissant, et que le tonnerre tarde encore. Tchentovik ne bougeait pas. Lent, calme, il réfléchissait, et je me sentais de plus en plus certain que sa lenteur était voulue et méchante. Du moins me laissait-elle tout le loisir d'observer M. B. Il avait déjà avalé 3 verres d'eau, et je me rappelais malgré moi son récit, la soif ardente qu'il avait eue pendant sa captivité. Le malheureux présentait tous les symptômes d'une excitation anormale. Son front se mouillait, la cicatrice sur sa main devenait plus rouge et plus marquée. Jusque-là, il était resté maître de lui. Pourtant, lorsqu'au 4e coup, Tchentovik se replongea dans des méditations interminables, il perdit contenance et l'apostropha brutalement. « Eh bien, jouez donc, voyons !» Tchentovik leva son œil froid. Nous avons, si je ne me trompe, fixé à 10 minutes le temps d'intervalle entre les coups. Par principe, je ne joue pas plus rapidement. Monsieur B. se mordit les lèvres. Je remarquai que son pied, sous la table, se mit à se balancer vite, toujours plus vite. Il allait perdre la tête, j'en eus l'irrésistible pressentiment. Au 8e coup, de fait, se produisit un nouvel incident. Monsieur B., qui avait une peine croissante à supporter ses attentes, ne put se contenir davantage. Il se pencha en avant, en arrière, et se mit involontairement à tambouriner du doigt sur la table. Tchentovik releva sa grosse tête de paysan. « Puis-je vous prier de ne pas tambouriner? Cela me dérange. Je ne puis pas jouer ainsi. » Monsieur B. eut un rire bref. « Ah, je m'en aperçois !» Tchentovik rougit. « Que voulez-vous dire ? » demanda-t-il la voix dure et mauvaise. Monsieur B. rit encore d'un rire sec et méchant. « Oh, rien, simplement vous êtes très nerveux !» Tchentovik baissa la tête et se tut. Il attendit 7 minutes pour jouer le coup suivant, et la partie continua en se traînant à ce rythme mortel. Tchentovik semblait de plus en plus pétrifié. Il mettait maintenant le maximum de temps prévu à prendre sa décision, et d'un coup à l'autre, la conduite de notre ami devenait de plus en plus étrange. Il semblait avoir oublié la partie en cours et s'occuper de toute autre chose. Il avait cessé d'aller et venir et restait assis, immobile sur sa chaise. Regardant le vide d'un œil fixe et hagard, il marmottait sans arrêt des mots incompréhensibles. Se perdait-il dans d'interminables combinaisons? Ou réfléchissait-il déjà à d'autres parties, comme je l'en soupçonnais quant à moi? En tout cas, chaque fois que son tour était venu de jouer, il fallait que nous le rappelions à la réalité. Une minute lui suffisait pour s'orienter. Pourtant, j'étais de plus en plus persuadé qu'il nous avait tous oubliés, y compris Tchentovik, et qu'il était en proie à une crise de démence froide qui pouvait éclater tout à coup avec violence. Et la chose se produisit effectivement au 19e coup. À peine Tchentovik avait-il joué, que M. B. poussait son fou 3 cases plus loin, sans même regarder l'échiquier, en criant si fort que nous sursautâmes « Échec, échec au roi !» Nous nous penchâmes tous sur l'échiquier pour voir cette manœuvre sans pareil. Mais ce qui se passa au bout d'une minute, aucun de nous ne s'y attendait. Lentement, très lentement, Tchentovik leva la tête et nous regarda l'un après l'autre, ce qu'il n'avait encore jamais fait. On vit naître sur ses lèvres un sourire moqueur et satisfait, il paraissait éprouver un plaisir sans borne. Lorsqu'il eut pleinement joui de ce triomphe encore incompréhensible pour nous, il dit à la ronde avec une politesse affectée « Je regrette, mais je ne vois pas comment mon roi pourrait être en échec. Un de ces messieurs le voit-il ? Nous examinâmes la situation, puis nos regards inquiets se tournèrent vers M. B. Le roi de Chantevik était entièrement couvert par un pion. Un enfant eût pu s'en rendre compte. Il n'y avait donc pas d'échec au roi. Nous devînmes inquiets. Notre fougueux ami avait-il poussé sans le vouloir une pièce de travers, une case de trop ou une en moins ? Le silence général le rendit à lui-même. Il examina l'échiquier à son tour et se mit à dire en bégayant violemment « Mais le roi doit être en F7, il n'est pas à sa place, pas du tout, vous vous êtes trompé, tout est faux sur cet échiquier, ce pion-là est en G5, pas en G4, c'est une toute autre partie, c'est… » Il s'arrêta brusquement. Je l'avais empoigné par le bras et même pincé si fort qu'il l'avait senti malgré son égarement fiévreux. Il se retourna et me regarda avec des yeux de somnambule. « Qu'y a-t-il ? Que voulez-vous ? » « Remember, » lui murmurai-je seulement, et je passai le doigt sur la cicatrice qu'il portait à la main. Il suivit malgré lui mon geste, ses yeux se ternirent et se fixèrent sur la trace rouge. Puis tout à coup, il se mit à trembler. Un frisson lui secoua tout le corps. « Pour l'amour du ciel, » chuchota-t-il les lèvres blanches, « ai-je dit ou fait quelque chose d'insensé ? Suis-je de nouveau ?» « Non, » fis-je doucement, « non, mais cessez immédiatement de jouer, il est grand temps. Souvenez-vous de ce que le médecin vous a dit. » Monsieur B. se leva aussitôt. « Veuillez excuser ma sotte méprise, » dit-il en s'inclinant devant Chantevik avec toute son ancienne politesse. « Ce que je viens de dire est une absurdité, bien entendu, c'est vous qui l'avez emporté. » Puis il se tourna vers nous. « Je m'excuse aussi auprès de vous, messieurs, mais je vous avais prévenu qu'il ne fallait pas trop attendre de moi. » Pardonnez cet incident ridicule, c'est la dernière fois de ma vie que je m'essaie aux échecs. » Il s'inclina encore une fois et s'en fut de la même manière mystérieuse et discrète qui nous était apparue la première fois. J'étais seul à savoir pourquoi cet homme ne toucherait plus jamais un échiquier, tandis que les autres demeuraient là, vaguement conscients d'avoir échappé à je ne sais quel désagrément ou même à un danger. « Damned fool !» grogna MacConnor déçu. Chantevik fut le dernier à quitter son siège et jeta encore un coup d'œil sur la partie commencée. « Dommage, » dit-il magnanime. L'offensive n'allait pas si mal. Pour un dilettante, ce monsieur est en fait très remarquablement doué.